Je suis en compagnie de Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour, merci de vous recevoir dans votre bureau. Nous parlons de votre dernier livre, Le mythe de la singularité. Faut-il craindre l'intelligence artificielle, qui est paru cette année dans la collection Science ouverte des éditions du Seuil. Jean-Gabriel Ganassia, vous dressez l'historique de l'idée de singularité technologique et vous expliquez qu'elle provient de la science-fiction. Et vous notez le tournant par cette phrase « Nous sommes donc passés de la science-fiction à la science ».
Bonjour, je vous remercie de m'inviter à parler de mon livre, Le mythe de la singularité. Comme vous le dites très justement, en faisant un peu l'histoire de cette notion, j'ai remarqué qu'elle trouvait ses racines dans la science-fiction. Et nous sommes en face d'un phénomène assez particulier aujourd'hui, à savoir que pendant longtemps, la science-fiction s'inspirait de la science. Elle était le reflet de ce qu'étaient les aspirations des scientifiques et elle ouvrait l'imaginaire sur les possibles. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes un peu dans un phénomène inverse, dans une situation en miroir, où c'est la science-fiction qui va inspirer la science. À quoi cela tient ? Je crois à deux choses. D'une part, parce que le financement des projets exige que l'on fasse miroiter des résultats tout à fait extraordinaires. Et tout naturellement, les scientifiques sont conduits à proposer des ambitions, des horizons qui sont extrêmement ambitieux. Et s'ils peuvent puiser dans les ressources de la science-fiction pour définir ses futurs, c'est quelque chose qui peut avoir un résultat extrêmement favorable. On pense par exemple à ce rapport qui a été écrit sur les NBIC, Nano, Bio, Info, Cogno, rapport écrit en 2003 aux États-Unis par deux personnes qui empruntaient beaucoup à la science-fiction elle-même. Et puis, la deuxième raison, je crois, pour laquelle la science-fiction joue un rôle important, c'est que nous avons affaire à des industriels qui aujourd'hui ont une puissance économique considérable et au-delà ils souhaitent forger, ils souhaitent changer la société, ils souhaitent faire en sorte que les technologies qu'ils développent modifient le monde, ils le disent d'ailleurs très clairement, et pour modifier le monde ils voudraient non seulement apporter des nouveaux outils, des nouveaux gadgets, des nouvelles solutions à la vie commune, mais il faudrait aussi forger un imaginaire. Et cet imaginaire, ils le reprennent à partir de la science-fiction. Alors, je vais citer un exemple que je ne cite pas dans le livre parce qu'il est arrivé après la publication des livres, mais Elon Musk, que tout le monde connaît, hein, qui est entre autres le fondateur de la société PayPal, qui a lancé la société Tesla, des voitures électrique et partiellement autonome, et qui a mis en place la société SpaceX, en mars 2017, a rendu public son projet de société Neuralink, qui a pour objectif, dans un premier temps, on pourrait dire le premier étage de la fusée, puisqu'il parle lui aussi de fusée, donc dans un premier temps, c'est d'utiliser les implants cérébraux pour soigner un certain nombre de maladies. On sait que, par exemple, en France, nous avons une équipe extrêmement connue, Louis-Alim Benabid, à Grenoble, qui soigne certains symptômes de la maladie de Parkinson par stimulation électrique profonde, donc il met des implants dans le cerveau et il fait passer des fréquences électriques qui vont supprimer les tremblements. Donc les gens atteints de maladie de Parkinson ne sont pas soignés, mais ils peuvent arriver à avoir une vie quasiment normale grâce à ces dispositifs. D'autres perspectives thérapeutiques sont envisagées avec les mêmes implants, par exemple pour la dépression, pour certaines formes d'épilepsie, pour certains troubles de la mémoire. D'autres équipes travaillent toujours avec cette technologie d'implant pour soigner des symptômes post-traumatiques, avec l'idée qu'il y a une espèce de rupture dans le cerveau, et donc on enregistre les signaux dans une zone du cerveau et on les réémet un peu plus loin. donnent des résultats qui sont peut-être un tout petit peu difficiles à évaluer, mais on imagine qu'avec énormément de moyens, on va perfectionner ce genre de technique. Mais, et c'est là où les choses sont problématiques, le deuxième étage de la fusée, là, rejoint un scénario de science-fiction. Avant de l'énoncer, je voudrais rappeler quand même la signification. Le mot Neuralink, donc le lien entre le cerveau et l'électronique, évoque un concept qui vient de la science-fiction, Neuralace, le lacet neuronal de Yann Bank. Et donc l'idée, bien sûr, c'est un peu la même, d'établir un lien direct entre notre cerveau et un dispositif électronique, à la fois pour étendre notre mémoire. Elon Musk dit que l'intelligence artificielle risque de dominer. Pour éviter que nous soyons soumis à l'intelligence artificielle, il faut s'incapaciter, s'accroître, avoir de nouvelles facultés, et donc accroître notre mémoire serait certainement positif. Et puis, la deuxième chose, c'est que si nous avons un lien direct entre notre cerveau et une mémoire artificielle, nous pourrions tous partager la même mémoire artificielle et donc être tous en contact les uns avec les autres, une humanité solidaire. Donc, c'est une utopie, un idéal qui pourrait se transformer assez rapidement en dystopie, mais là, c'est une autre histoire. Et en tant que scientifique, bien sûr, il importe de dire, certes, ces projets viennent de la science-fiction, mais en même temps, quand on les examine de près, nous n'avons aucun élément scientifique qui nous permette de justifier ce type de projection. C'est-à-dire, autant le premier étage de la fusée, c'est la poursuite de travaux qui existent, et donc on peut imaginer qu'avec des moyens conséquents, on fasse énormément de progrès, autant dans le second, qui est certes fascinant, hein, éventuellement qui peut provoquer des réactions de rejet, mais en tout cas qui laisse songeur. Donc ce deuxième étage, qui est celui qui fait parler de lui, bien sûr, celui-là, il n'est pas les arguments qui sont déployés pour justifier de ce second étage, à mon sens, n'ont rien à voir avec l'état de la connaissance contemporaine.
Alors, j'aimerais qu'on continue sur le rôle attribué à la science-fiction, à cet imaginaire. Je vous imagine, chercheur Jean-Gabriel Ganassia, à avoir lu la science-fiction peut-être après, au fur et à mesure de l'avancée notamment de vos travaux de recherche. Vous attribuez à Werner Winge notamment un rôle important, et je vous imagine le lire après et vous dire mais tout vient de là, en fait, tout vient de là.
Oui, c'est effectivement un univers qui est un peu parallèle. Hein. Je n'ai pas été un très grand lecteur de science-fiction quand j'étais jeune. J'ai lu un peu de science-fiction. Peut-être d'ailleurs plus que je l'imaginais. C'est-à-dire que j'ai toujours été un peu effrayé par ces immenses rayons de science-fiction. Et je dois confesser que beaucoup d'ouvrages m'ennuyaient un peu en science-fiction. Mais il y a quand même des choses tout à fait extraordinaires. Et surtout, donc, ce que j'ai vu quand je me suis intéressé à ces questions de singularité technologique, c'est que ça puisait ses racines dans un certain nombre d'ouvrages que je me suis mis à lire à ce moment-là pour mieux comprendre l'origine de cela. Peut-être faudrait-il commencer par ce qui m'a conduit à m'intéresser à cette notion de singularité. Donc, je suis moi-même un chercheur en intelligence artificielle, discipline dans laquelle je travaille depuis de très nombreuses années. Je fais toute ma carrière dedans, donc j'ai passé deux thèses, hein, parce que je suis de l'époque où on passait encore des thèses d'État. D'abord sur les systèmes à base de connaissances et puis ensuite sur l'apprentissage machine. Et je me souviens très bien que à la fin des années 90, il y a eu des articles dans le journal Le Monde où on faisait des interviews d'un chercheur fantasque qui s'appelait Hugo de Garis. Et celui-ci expliquait que il allait y avoir une guerre entre les hommes au sujet des machines. Il disait, on va fabriquer des machines qui vont être de plus en plus intelligentes. Alors, il appelait ça un nom étrange, une espèce d'insecte. Il appelait ça des artilectes, des espèces d'insectes artificiels. Et disait-il, ils seront tellement intelligents qu'ils vont prendre le pouvoir. Et là, l'humanité va se diviser. Il y aura les conservateurs, hein, qui, je crois qu'il appelait ça les terrans, hein, qui voudront conserver à l'homme sa suprématie et donc détruire, légiférer, empêcher ses artilèges de se déployer. Et puis d'autre part, alors je ne me souviens plus du nom qu'il employait pour les autres, mais enfin, les spiritualistes, ceux qui pensaient que ce qui importe, c'est le devenir de l'esprit, quel que soit ceux qui incarnent cet esprit, et que si c'était des machines qui devaient constituer le devenir de l'esprit, ben, il fallait se supprimer, il fallait accepter cela et les développer pour que l'esprit s'épanouisse. Alors, ça ne reposait bien sûr sur rien du tout. En même temps, ce chercheur avait cette stratégie étrange de dire « Attention, vous voyez, regardez ce qu'on fait, c'est extraordinaire, c'est terrifiant, il faut nous arrêter. » Et donc, moi, ça me faisait rigoler. Bon, en même temps, j'étais un peu irrité. Je me disais quand même, il exagère, il se vante, parce que ses recherches n'aboutiront jamais à ce genre de choses. Jusqu'au jour où j'ai fait un exposé à l'école de physique et de chimie industrielle de Paris, devant des jeunes étudiants, et j'y ai présenté l'intelligence artificielle. Je n'ai eu aucune question technique, uniquement des questions sur cette interview d'Hugo de Garis. Là, bon, j'ai essayé de leur répondre, je me suis rendu compte quand même qu'il fallait analyser en détail les arguments, et puis ça m'a conduit à demander si je pouvais répondre à cette interview dans le journal Le Monde. Et là, bon, j'ai eu la chance qu'on accepte effectivement que je fasse une réponse, que j'ai fait, hein, où j'ai essayé de montrer que les arguments sur lesquels se fondait Hugo de Garis n'étaient pas scientifiquement acceptables. Quelques années après, donc les choses sont arrêtées, puis j'ai pensé à autre chose. Hein. Quelques années après, j'ai entendu que il y avait réactivation de ce genre de scénario, et que ça n'était plus des chercheurs isolés, ça n'était plus des personnalités un peu fantasques, en mal de publicité. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, j'avais croisé un journaliste du Match qui voulait que je réponde à ses questions. Je me disais, c'est pas sérieux. Et il me disait, mais vous savez, pour nous, le journaliste, c'est pain béni. Est-ce que ça a beaucoup de succès? Donc, c'était des individus isolés. Mais ce qui m'a étonné, durant les années 2012-2014, c'est que des grandes entreprises de l'Internet, comme Google, des grands entrepreneurs, comme Elon Musk, qu'on a déjà mentionné, ou Bill Gates, donnent crédit à ce que l'on doit bien appeler aujourd'hui des fables ou des légendes. Et que elle finance un certain nombre d'institutions qui vont propager ce type de choses. Et autant je trouve que l'imaginaire, c'est très riche, l'imaginaire que la science permet de nourrir est tout à fait extraordinaire, autant quand on établit une confusion entre l'ingénierie et la science, il peut y avoir un certain nombre de dangers. Et de cet imaginaire de la science-fiction à l'idéologie, qui est une forme d'imaginaire collectif, je pense qu'il y a un pas, et c'est ce pas que ces grandes sociétés sont en train de franchir. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé qu'il était important de clarifier les choses.
Vous avez dressé un merveilleux historique. Ce qui va m'intéresser en tant que personne qui s'intéresse à la fiction et aux enjeux de la fiction et à la théorie de la fiction, c'est ce moment que vous captez, ce retournement, quand vous écrivez que des scientifiques et des ingénieurs tirent désormais les justifications de leur recherche de la science-fiction, alors qu'originellement, l'inverse prévalait. Il y a un retournement là, et c'est un retournement d'une grande puissance, parce que comme vous venez de l'expliquer, Jean-Gabriel Ganassia, c'est-à-dire que ça fait de l'action. C'est-à-dire que des ingénieurs, même aussi des philosophes, des techniciens, et puis bien entendu des patrons de multinationales très puissantes, comme Google par exemple, elles, non seulement elles portent crédit à ça, mais elles injectent des milliards pour essayer de tenter de réaliser ce qu'ils prétendent être la singularité technologique. C'est-à-dire que leur imaginaire de science-fiction, et vous pointez très très bien cela, et c'est vraiment un des moments puissants de votre livre, va réaliser de l'action, mais pas des petites actions, non, des actions à grande échelle, c'est-à-dire des actions avec beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de scientifiques qui vont les travailler pour essayer de rendre cela possible. Il y a quand même aussi quelque chose d'excitant. Au fond, ce qui vous gêne le plus, c'est qu'il vont dire que c'est un discours scientifique. Or, votre livre prouve bien que ce n'est pas un discours scientifique, que c'est plus un discours fictionnel issu de l'imaginaire. Néanmoins, ça produit quand même quelque chose qui peut être fantastiquement excitant. Même si ça échoue complètement, il y a une excitation incroyable d'une arrivée de la fiction et de la science-fiction. Moi qui m'intéresse aux théories de la fiction, c'est quelque chose qui est prodigieusement excitant, aussi excitant qu'ont pu l'être l'imaginaire dans les années 50 et 70 des soucoupes volantes et des extraterrestres, par exemple. Maintenant, cet imaginaire est derrière nous, et l'imaginaire qui est devant nous, c'est celui de la singularité technologique.
Alors effectivement, ces grandes sociétés financent assez largement des projets qui s'inscrivent dans cette perspective. Ils financent aussi des groupes de réflexion. L'Université de la Singularité, l'Institut du futur de la vie, l'Institut du futur de l'humanité, l'Institut des estropéens. Il y a une kyrielle d'institutions qui travaillent ou qui réfléchissent, hein, qui envisagent ces questions-là. Les participants d'ailleurs à ces différentes institutions se partagent, hein, et on les retrouve de l'une à l'autre. Il y a des gens à l'Université d'Oxford, il y a des gens en Californie, on retrouve toujours un peu les mêmes noms. Et puis, je dirais, Google, par exemple, a employé et emploie Ray Kurzweil, qui est un ingénieur qui a reçu des mains du président Clinton la plus haute distinction de la technologie aux États-Unis, hein, et qui aujourd'hui a un certain âge, mais qui se consacre essentiellement à une réflexion sur la singularité technologique. Donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait étonnant, hein, de voir que c'est un scénario de science-fiction qui va avoir cet aspect régulateur. Hein, et même lorsque des gens comme Elon Musk vous expliquent que l'intelligence artificielle est un danger existentiel pour l'humanité, qu'ils craignent le développement de l'intelligence artificielle, en regard, ils nous expliquent que la seule possibilité, c'est une espèce de vaccination, de soigner le mal par le mal, soigner la technologie par la technologie, et donc étendre nos capacités intellectuelles avec la technologie pour nous permettre de rivaliser contre ces intelligences artificielles. Alors c'est là encore des projections imaginaires qui sont très éloignées de ce qu'est la réalité contemporaine et de ce que la science permet de percevoir de ce monde. Alors ma critique est double. Elle est d'une part on ne fait pas suffisamment attention à la réalité. Il y a un principe quand même de réalité, même si l'imaginaire peut guider les hommes, à un moment donné, il y a quand même des contraintes fortes. Mais la deuxième raison qui relève de l'imaginaire, c'est que c'est un seul scénario. Et c'est un scénario ancien. Rappelons que cette idée de singularité vient des années 50. Les tout premiers travaux ont montré que la puissance des calculateurs était liée au nombre de composants et que celui-ci s'accroissait de façon exponentielle. En 1959, plus exactement en 64, mais on observe depuis 1959, un accroissement exponentiel, c'est-à-dire un doublement à intervalles réguliers de la puissance des machines, c'est ce qui constitue la loi de Moore. Et très vite, des auteurs de science-fiction s'emparent de ces résultats en se disant eh ben, nous allons avoir à un moment donné un point critique au-delà duquel le statut de l'homme dans la nature sera mis en cause par les machines qu'il aura fabriquées. D'une certaine façon, on reprend un très vieux schéma, cette idée que l'homme qui se perfectionne est capable d'égaler Dieu et donc lui-même de créer autre chose que lui-même, comme Dieu, de faire une créature. Et en même temps, cette perfection de l'homme est d'une certaine façon une transgression de son statut, puisqu'il s'égale à Dieu, et donc il court un certain nombre de dangers, qui est de voir cette créature qu'il a créée, qui tout d'un coup le remplace et se substitue à lui. Alors, cette idée très ancienne, donc, que le développement des technologies a permis de remettre au goût du jour avec cette idée de la loi de Moore, hein, a été reprise par un certain nombre de gens, dont Werner Winge, hein, et puis d'autres après. Mais ce que je trouve dommage, c'est que si l'on en reste à l'imaginaire, il faudrait inventer des choses nouvelles. La réalité de notre monde est très différente de celle des années 50. Et le développement des technologies pourrait conduire à des futurs extrêmement différents de celui-ci. Et donc ma critique, elle est double, hein. C'est effectivement cette négation de la réalité scientifique tangible. Et puis deuxièmement, c'est qu'il y a un seul futur, un seul scénario, tout converge vers ce scénario selon ses auteurs, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de liberté. Et ce scénario lui-même est un scénario qui nous dit qu'il n'y a plus de liberté, qui nous explique qu'il y a un déterminisme technologique, que les machines vont se déployer d'elles-mêmes, qu'elles vont prendre leur autonomie, non seulement au sens technique, hein, savoir comme une chaîne de causalité qui va de la prise d'information à la décision, mais au sens moral, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une volonté propre qui nous échappera totalement, hein, et qu'elles seront, de ce point de vue-là, des entités, hein, qui vont s'opposer à nous. Or que, bon, pour l'instant, on n'a aucun élément pour dire cela, hein. Et le passage, d'ailleurs, hein, qui est très intéressant, hein, de cette fréquence de calcul des machines à l'intelligence des machines, à cette idée que les machines vont avoir une conscience, d'abord conscience d'elles-mêmes, hein, ce qui est très étrange parce qu'on sait un tout petit peu ce qu'est la conscience, mais en réalité, le concept au plan philosophique a différentes acceptions entre... La conscience qu'on pourrait appeler existentielle, hein, le fait qu'on attribue une conscience par animisme à une entité qui bouge, hein, une entité qui est en mouvement, hein, ça c'est extrêmement utilisé par les informaticiens pour concevoir des interfaces homme-machine, hein, c'est le fondement même de ce qu'on appelle affective computing, hein, le calcul des émotions, c'est-à-dire que les machines n'ont pas d'émotions, mais on projette sur les machines des émotions. Donc ça, c'est une forme de conscience très triviale et donc qui ne pose pas de problème, hein, qui est utilisée. Une deuxième question, c'est le fait que la conscience morale, c'est se regarder en train d'agir pour être capable de se juger. De limiter éventuellement cette action, c'est-à-dire se représenter. Donc, est-ce qu'on peut faire une machine qui regarde ce qu'elle fait et qui se dit, ah bah tiens, là j'ai bien fait, là j'ai mal fait, là, je... Oui, on peut le faire. Et il y a des travaux, soit pour faire de l'apprentissage, par exemple. Quand, par exemple, AlphaGo 0 reprend le programme AlphaGo et puis joue contre lui-même et arrive sans observer ce qui se passe à l'extérieur, mais simplement, hein, par son propre jeu contre soi-même, à se perfectionner au point d'être meilleur que les autres, c'est une forme de réflexion. Mais on peut avoir, bien sûr, beaucoup d'autres formes de réflexion. C'est une forme de conscience, de ce point de vue-là. Mais il y a une troisième acception de la conscience, alors là, qui est beaucoup plus obscure, et c'est celle-là, bien sûr, qui demeure très mystérieuse, hein, et à laquelle nous sommes loin d'accéder, hein, qui est le fait de ressentir, éprouver du plaisir, de la douleur. Est-ce qu'une machine pourrait le faire? Et qu'est-ce que ça voudrait dire que la douleur d'une machine? Hein, nous avons bien le sentiment que notre douleur est liée à un besoin physiologique. Alors est-ce que la douleur de la machine serait une projection de notre douleur sur la machine, est-ce que ce serait du même ordre, hein, ou est-ce que ce serait sa propre douleur? Et alors à ce moment-là, les besoins matériels de la machine sont très différents des nôtres, puisque par exemple une machine de métal craint l'eau plus que tout, tandis que nous avons besoin d'eau, et donc elle n'aurait certainement pas la même conscience que nous. Alors, dernier point, bien sûr, toujours cet aspect conscience, est-ce que nous ne sommes qu'un logiciel dans une machine, est-ce que l'on peut télécharger, comme le dirait Kurzweil, notre conscience sur une machine? C'est un point extrêmement mystérieux. C'est un réductionnisme informatique qui est très excessif, hein, et à la fois, je crois qu'il est important de comprendre que en tant que modèle, l'ordinateur permet de mieux nous comprendre. Donc pour ça, il joue un rôle central dans les sciences de l'intelligence, les sciences de l'homme, les sciences cognitives. Mais en même temps, supposer que nous ne sommes rien qu'un ordinateur avec un logiciel, c'est excessif. Et donc l'idée qu'on puisse télécharger notre conscience sur une machine parce qu'elle serait beaucoup plus puissante que nous n'a vraiment aucune espèce de fondement. Même si, de l'ordre de l'imaginaire, bien sûr, ce serait quelque chose de tout à fait extraordinaire parce que nous deviendrions immortels. Hein, ce qui est, bien sûr, ce qui explique, hein, les tenants de la singularité technologique. Et donc, comme on le sait, hein, il y a même un milliardaire russe qui se dit, si on est immortel, que notre âme est téléchargée, nous n'aurons plus de corps. Alors à ce moment, il faut se réincarner. Et il propose, tous les auditeurs peuvent aller sur le site 2045.com. Le .com est important, bien sûr, parce que c'est commercial. Donc vous avez un bouton virtuel sur lequel vous pouvez cliquer. Et contre monnaie sonnante et trébuchante, vous pouvez utiliser quand même la monnaie virtuelle avec une carte bleue, mais contre monnaie sonnante et trébuchante, enfin, sonnante virtuellement, vous pouvez commencer à construire votre corps d'emprunt, votre avatar immortel dans lequel vous réincarnerez à partir de ce moment de la singularité, donc qui est 2045. C'est pour ça que le site s'appelle 2045.com. Donc on a encore quelques années, hein, mais enfin moins de 30 ans, c'est quand même une sacrée affaire, hein, c'est pour l'éternité. Donc je conseille à tous les auditeurs de s'y mettre dès à présent.
J'aimerais justement qu'on revienne sur votre argument qui me semble celui qui est le plus puissant, Jean-Gabriel Guénassia, outre bien entendu les données scientifiques. C'est celui qu'il n'y aurait qu'un seul scénario à l'œuvre dans la singularité et en fait que ça ferait appel à un vieil imaginaire, un imaginaire déjà daté, alors que la science est la discipline qui, elle, suggère toujours et confronte plusieurs scénarios. Normalement aussi, dans l'imaginaire, il y a confrontation de plusieurs scénarios aussi, normalement. Il suffit de penser, la science-fiction est tellement riche. Or là, il n'y aurait à l'œuvre qu'un seul scénario, et là, intellectuellement, créativement, ça pose véritablement un problème de se dire qu'il n'y a pas d'autres scénarios qui sont confrontés, au moins un deuxième scénario pour envisager un futur probable. Et ça pose un problème de liberté. Bien entendu, dans la singularité, c'est nous n'avons plus le choix, c'est ça qui va arriver et l'humanité va disparaître. Donc il y a ce problème de liberté qui est posé, mais il y a ce problème de liberté fondamentale qui est que puisqu'il n'y a qu'un seul scénario et qu'un seul imaginaire qui fait faire de l'action, ça pose également là aussi un problème de liberté. Donc un problème de liberté qui serait double, un problème de liberté dans envisager un seul scénario qui n'est pas confronté à un autre scénario, et en plus dans ce scénario qui est envisagé, il y a bien entendu, nous n'avons plus le choix, nous n'avons plus la liberté. Et ça, c'est une critique très très puissante justement, ce double problème de la non-liberté.
Bah tout à fait, hein, c'est je pense l'essentiel, hein, de ce que je voulais dire. Hein. Vous savez que je suis aussi président du comité d'éthique du CNRS, hein, et donc cette question me préoccupe au plus haut point. Hein. L'éthique, c'est d'abord la liberté, puisque la responsabilité de ses actions ne peut être engagée que s'il y a eu choix. Tandis que si nous sommes soumis, hein, à des contraintes, que ben, nous n'avons pas aucune part, hein, dans les décisions que nous prenons, et ben, à ce moment-là, il n'y a aucune possibilité, hein, de morale, hein, quelle qu'elle soit. Et effectivement, vous le dites très 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 justement, hein, il y a deux types de contraintes, hein, un seul scénario et surtout, hein, dans ce scénario, un scénario qui nous explique que nous n'y pouvons rien. Hein. C'est un peu d'ailleurs là, peut-être ce qui motive des gens comme Stephen Hawking. C'est très curieux parce que lui-même n'est pas un informaticien, c'est un astrophysicien. Et on peut se dire, mais pourquoi s'inquiète-t-il tant de cette question de la singularité ? L'hypothèse que j'émets, c'est qu'il est lui-même l'auteur de travaux sur une autre singularité, qui est une singularité gravitationnelle, ce qui sont les trous noirs. C'est une singularité qui se déploie dans l'espace. Et il voit, avec la singularité technologique, à la fois une autre singularité, donc qui l'intéresse au plus haut point, mais en même temps, singularité qui a un déploiement extrêmement étrange, puisque c'est dans le temps. Alors se demander, et j'ai essayé de le faire dans le livre, ce qui m'a donné un petit vertige, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire qu'une singularité temporelle ? Ça veut dire que on va être aspiré comme dans une espèce de maelstrom à partir d'un certain point. Alors dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a un horizon, hein, et votre vaisseau spatial arrive, au début vous voyez rien, et puis après, vous voyez que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Hein, et donc, vous êtes... tandis que, bien sûr, d'autres le peuvent, tandis que dans le temps, ça veut dire qu'on est tous un peu dans le même bateau, et qu'à partir d'un certain moment, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Il n'y a donc effectivement plus de liberté. On a cette évolution devant laquelle il n'y a aucune possibilité d'action. Il y a un côté irréversible. Ce qui est très curieux, c'est que dans les descriptions que font des gens comme Kurzweil, mais on retrouve ça chez d'autres, hein. Par exemple Nick Bostrom dit un tout petit peu la même chose dans son livre Superintelligence, ils font une fresque de l'histoire de l'humanité. Et ils nous disent, ben voilà, il y a différentes phases, et au fond, l'évolution obéit à des règles qui sont intangibles. Et la nature exponentielle de l'évolution, dont la loi de Moore est le reflet et le prolongement, et bien cette loi s'inscrit effectivement depuis l'aube des temps. C'est quelque chose, bien sûr, qui laisse entendre que bien sûr, l'homme n'a jamais été libre et qu'il ne le sera jamais. En tout cas, que le destin collectif est déjà scellé. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous n'avons aucune raison d'accepter tel quel. Il me semble que nous forgeons notre futur. Hein. Je me sens qu'il y avait une image que j'aimais bien prendre. Hein. C'était cette idée que le ciel des Gaulois leur tombait sur la tête, hein, et le destin arrivait sans qu'ils n'y puissent rien. Je pense qu'en matière de technologie, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous pouvons à tout moment essayer de réfléchir au mode d'appropriation de la technologie, et c'est nous qui faisons les technologies. Alors certes, nous avons un pouvoir socio-économique qui joue un rôle important, hein, dans cette acceptation des technologies. Mais les choses peuvent changer. D'ailleurs, on voit bien, hein, que la façon dont on s'approprie les technologies dans différents pays, par exemple en Chine, n'est pas la même que la façon dont on se les approprie aux États-Unis ou en Europe. Tout cela me conduit à dire que les grands enjeux sont pas métaphysiques. C'est-à-dire que c'est pas le devenir de l'homme. L'homme ne change pas. Hein. Cette idée d'hybridation de l'homme et de la machine est un peu illusoire. C'est-à-dire qu'à la fois, bon, nous sommes déjà depuis très longtemps des cyborgs. Les lunettes, par exemple, sont des dispositifs. Les stimulateurs cardiaques. il existe des implants cochléaires, hein, et qui peuvent soigner certaines maladies. Mais il n'y a pas de rupture radicale de ce point de vue-là. En revanche, je crois que ce qui va vraiment transformer dans les années qui viennent, ce sont les relations de pouvoir. Je crois que nous sommes à l'aube d'une transformation politique majeure du monde dans lequel nous vivons. Il me semble que nous entrons dans une nouvelle forme de féodalisme où les acteurs principaux ne sont plus des États qui se partageront, hein, de façon... comme une partition le monde, comme c'était auparavant le cas, hein. Un État était bordé par un autre État, mais je crois que nous arrivons dans une forme de nouvel empire, hein, où des grands acteurs, hein, vont se partager le monde, et où la coextension du territoire et de l'État disparaît, c'est-à-dire qu'un même territoire va être traversé d'influences extrêmement variées. Donc ça ouvre sur des futurs qui sont à la fois extrêmement nouveaux, extrêmement intéressants, et en même temps inquiétants. Inquiétants pas seulement parce que c'est le futur et parce que c'est l'inconnu, inquiétants parce que, comme souvent, quand vous êtes dans une période de transition, c'est comme s'il y a une tectonique des plaques. C'est à ce moment-là qu'il y a des failles, qu'il y a des ruptures, hein, qui peuvent intervenir. Et je crois que c'est de ça dont il faut prendre conscience pour essayer de limiter les effets que cela peut avoir. Il me semble que l'une des choses qui est en train de se produire, c'est que face donc à cette présence de nouveaux acteurs, il peut y avoir une tentative de repli. et de reconstruction de mémoire imaginaire. Justement, on parle de l'imagination, hein, ce qu'on appelle les identités réactives. Et ce qu'on voit malheureusement dans un certain nombre de pays européens, hein, où les courants nationalistes, les courants régionalistes, hein, sont en train de prendre un essor de plus en plus grand. Et je crois que là, il est important, hein, de proposer un futur et un imaginaire qui ne soit pas seulement celui que suggèrent les grandes firmes de l'Internet, hein, c'est-à-dire cette toute-puissance de la technologie qui nous affirme avec l'idée de singularité, mais qui soit autre chose, un autre destin commun que nous aurions à forger et qui serait désirable.
Merci beaucoup, Jean-Gabriel Ganassia.
Merci beaucoup.